Bon, pour commencer cette exploration, il faut essayer d'imaginer la scène. Un matin, on se lève, on prend son café tranquillement, on ouvre l'application qui génère le gros de ses revenus depuis peut-être 2 ans, et là, bam!
Ouais, le fameux bandeau rouge.
C'est ça. Le bandeau rouge vif sur l'écran qui dit compte définitivement banni.
Aïe, sans aucun avertissement, j'imagine.
Aucun avertissement. Pas de possibilité de faire appel. Des mois, voire des années d'efforts pour construire une boutique en ligne, balayés en une fraction de seconde. En fait, c'est le cauchemar absolu de milliers de vendeurs sur la plateforme Vinted.
Et c'est une menace qui pèse particulièrement sur ceux qui essayent de grandir, non?
Exactement. Surtout ceux qui essaient d'automatiser leur activité. Parce que d'un côté, l'automatisation, bah, ça fait rêver. On a envie de republier ces annonces en masse pour remonter dans les recherches. On veut aller plus vite, gagner du temps.
C'est logique quand on a beaucoup de stock.
Ouais, sauf que de l'autre côté, les algorithmes de modération de Vinted font la chasse aux robots, et avec une sévérité implacable. C'est vraiment une tension énorme. Et c'est justement ce marché de dupes qui est au centre de notre décryptage d'aujourd'hui.
Un sujet fascinant, pour le coup.
Complètement. Les sources qu'on a rassemblées se penchent sur un cas d'étude très précis. C'est une application de gestion qui s'appelle YouSync et qui a été créée spécifiquement pour les vendeurs Vinted. L'objectif de notre analyse, c'est de comprendre comment cet outil prétend offrir une automatisation totale tout en respectant une règle stricte de sécurité absolue.
Ce qu'ils appellent le concept de zéro risque, c'est ça?
C'est le mot d'ordre, le zéro risque. Donc au programme aujourd'hui, on va parler de la mécanique cachée des emails, de traçabilité, des angoisses fiscales et d'une approche très très particulière de l'intelligence artificielle. Le décor est planté.
Eh bien, c'est une porte d'entrée parfaite. Parce que ce paradoxe entre le besoin d'automatiser et la peur panique du bannissement, c'est ce qui définit toute l'architecture de YouSync.
Comment ça?
Pour bien saisir comment cet outil arrive à piloter un commerce entier, il faut d'abord comprendre sa contrainte de base. C'est vraiment leur dogme. L'application ne se connecte absolument jamais au compte Vinted du vendeur. Jamais.
Attends, jamais?
Zéro connexion. Il n'y a pas d'interface de programmation secrète en arrière-plan, pas de robot qui clique à la place de l'humain. Et surtout, on ne demande jamais, au grand jamais, le mot de passe de l'utilisateur.
Ah oui, donc le compte reste totalement isolé.
Exactement. Le compte reste la propriété exclusive de son créateur, hermétiquement fermée. Et en fait, c'est uniquement comme ça qu'on peut garantir ce fameux risque de bannissement nul. Si tu ne touches pas au compte, l'algorithme de Vinted ne peut rien te reprocher.
D'accord, mais il faut qu'on décortique un peu ça, parce que sur le papier, ça me semble complètement contradictoire.
C'est vrai que ça paraît contre-intuitif.
Bah oui, si l'outil n'a pas les clés de la boutique, s'il ne se connecte à rien du tout, comment est-ce qu'il peut gérer quoi que ce soit? Ça ressemble un peu à de la magie, non? Enfin, on ne peut pas piloter une voiture si on refuse de s'asseoir au volant.
Je comprends tout à fait l'objection, mais la solution qu'ils ont trouvée est d'une simplicité technique assez désarmante. Tout passe par les emails.
Juste les emails.
Ouais, des emails transactionnels pour être précis. C'est la seule et unique source de données de tout le système.
Et comment ça se met en place pour l'utilisateur?
En pratique, le vendeur n'a besoin d'aucune compétence technique. Lors de son inscription, l'application lui fournit une adresse mail spécifique, YouSync. Ensuite, le vendeur va dans les paramètres de sa propre boîte de réception, que ce soit un compte Gmail, un Outlook, peu importe, et il configure une simple règle de transfert automatique.
D'accord, je vois le genre.
Voilà. Dès que Vinted lui envoie une notification, hop, le message est transféré automatiquement vers l'adresse YouSync.
Donc si on prend un exemple très concret pour bien comprendre, je vends un pull.
Ok, tu vends un pull?
La plateforme m'envoie son mail classique avec l'objet Ton article est vendu. Cet email est redirigé vers l'application, et ensuite?
L'outil se contente de le lire.
Exactement ça. L'application effectue une lecture silencieuse, totalement sécurisée, de ce message qui vient d'être transféré.
Et ça suffit pour en tirer quelque chose?
Ah, bah oui, parce qu'à l'intérieur de cet email, les données sont extrêmement structurées. Il y a le nom de l'article, le prix auquel il est parti, le nom de l'acheteur. Et le code de YouSync va juste extraire ces informations clés et les intégrer dans son propre tableau de bord.
J'aime beaucoup l'image que ça m'évoque en fait. C'est un peu comme si on embauchait un comptable redoutablement efficace.
C'est ça.
Mais au lieu de lui donner les clés du magasin et l'accès au tiroir caisse, on lui demande de rester dans son bureau de l'autre côté de la rue.
Et il ne traverse jamais. Voilà. Et on se contente de glisser des photocopies de chaque reçu sous sa porte. Lui, de son côté, il fait toute la comptabilité de manière impeccable, mais il n'a physiquement aucun moyen d'interférer avec le commerce.
C'est une excellente métaphore. Et cette passivité du système, bah c'est sa plus grande force défensive.
Par rapport aux concurrents, tu veux dire?
Complètement. Sur le marché actuel, il y a beaucoup d'outils concurrents qui promettent de booster les ventes. Mais comment ils font? Ils prennent le contrôle du compte pour republier les mêmes annonces en boucle.
Ah oui, les fameux bots qui suppriment et remettent en ligne.
Ouais, et c'est une méthode hyper agressive. Ça alerte immédiatement les algorithmes de détection de spam de Vinted. YouSync, eux, ils refusent catégoriquement cette approche. Le système observe, il extrait, il consolide les données, mais il ne fera jamais une seule action à la place du vendeur.
Bon, ok. L'outil ne touche à rien, l'analogie du comptable fonctionne, je comprends la sécurité. Mais soyons un peu critiques une seconde.
Je t'écoute.
Un simple système de transfert d'email, ça paraît quand même extrêmement fragile, non? Enfin, un email, ton article est vendu, c'est le strict minimum syndical. Si l'outil ne se nourrit que de ça, on perd forcément une quantité astronomique d'informations sur le reste du processus.
Tu penses à quoi?
Ben, l'expédition, les litiges, le moment où l'argent arrive vraiment. On ne peut pas tout piloter avec un seul mail.
Alors, c'est l'objection la plus naturelle. Face à ce modèle, on pourrait croire qu'un email n'est qu'un ticket de caisse très basique, mais c'est vraiment sous-estimer la verbosité des plateformes de vente modernes aujourd'hui.
Verbosité, c'est-à-dire qu'elles parlent beaucoup?
Vinted, comme beaucoup d'autres, communique énormément par email avec ses utilisateurs. Le but, c'est de les rassurer à chaque étape. Et de manière assez surprenante, ces simples notifications contiennent une richesse d'informations largement suffisante pour recréer une traçabilité millimétrée, de bout en bout.
Ah, parce qu'il n'y a pas qu'un seul email au moment de la vente, le système traque toute la chaîne.
Mais oui, tout à fait. C'est un suivi séquentiel complet. Reprenons le parcours de ton pull. Le premier mail annonce la vente. Là, le statut de l'article passe en vendu dans YouSync. Ensuite, quand tu vas déposer ton colis au point relais, la plateforme génère une nouvelle notification.
Le fameux mail « colis envoyé ».
Exactement. Et l'outil la capte. Ensuite, quelques jours plus tard, l'acheteur récupère son paquet. Nouveau mail « colis réceptionné ».
Ah ouais, d'accord.
Et il y a l'étape finale qui est cruciale pour la trésorerie. C'est le mail qui confirme que la transaction est finalisée et que l'argent est enfin disponible sur le porte-monnaie virtuel du vendeur.
C'est super habile en fait. On a littéralement le suivi logistique complet juste en lisant par-dessus l'épaule du vendeur via sa boîte mail.
C'est exactement l'idée.
Mais quid des imprévus? Parce que dans la vraie vie, il y a des ventes annulées, des retours. Si l'outil compte une vente au tout premier mail, mais que la commande est annulée 3 jours plus tard, tous les calculs de rentabilité du mois deviennent complètement faux.
Et c'est là que leur système de filtrage montre sa robustesse. L'application est programmée pour identifier spécifiquement les notifications d'annulation ou de litige.
Et qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là?
Si un mail de ce type arrive, l'algorithme fait machine arrière, tout simplement. Il écarte intelligemment la vente des statistiques de chiffre d'affaires et il remet automatiquement l'article en stock virtuel.
Pour que les tableaux de bord restent justes.
Ouais, pour garder une précision absolue. Mais tu sais, ce suivi du parcours, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'extraction va beaucoup plus loin, surtout sur l'aspect logistique.
Qu'est-ce qu'on peut extraire de plus d'un simple email?
Les documents joints.
Ah, bien sûr.
L'outil télécharge directement les bordereaux d'expédition qui sont fournis au format PDF, ainsi que les factures. Et c'est ici qu'une bascule super intéressante s'opère. YouSync va récupérer les informations qui sont écrites sur ces bordereaux.
Comme quoi? L'adresse?
Le nom ou le pseudonyme de l'acheteur, sa localisation, oui. Et avec ça, l'outil constitue automatiquement une véritable base de données client.
Attends, une base de données client pour des vendeurs Vinted. On n'est pas en train de parler de multinationales de la cosmétique, là. Souvent, ce sont juste des particuliers ou des petits indépendants qui vident des placards, non? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tel niveau de détail?
Alors, pour quelqu'un qui vend 3 vieux t-shirts par an, non, absolument pas. Ça n'a aucun intérêt.
On est d'accord.
Mais les sources montrent que l'application vise très clairement ceux qui veulent professionnaliser leur activité. Avoir un répertoire client, ça permet d'identifier les acheteurs fidèles.
Et on peut en tirer parti comment?
Ben, imagine que tu remarques qu'un utilisateur achète régulièrement des vêtements pour enfants d'une certaine taille chez un même vendeur. Ce vendeur peut adapter ses futurs achats de stock pour cibler cette personne. L'outil calcule même le panier moyen par client.
Ah oui, on passe vraiment d'une logique de vide-grenier du dimanche à une vraie logique de e-commerce.
C'est la transition visée, ouais.
Mais du coup, pour gérer tout ce e-commerce, il faut bien suivre l'inventaire. Et ça, c'est souvent un cauchemar de savoir ce qu'on a en stock quand on a des centaines de références éparpillées dans des cartons. Comment ça s'organise de ce côté-là si l'appli ne peut pas lire la boutique Vinted en direct?
Tout repose sur la discipline du vendeur au tout début, au moment de la création de son inventaire sur YouSync. Il doit saisir son stock initial en renseignant son prix d'achat.
Logique, pour calculer la marge ensuite.
Voilà. Et ensuite, on utilise une méthode vieille comme le commerce de détail, les codes SKU.
SKU, Stock Keeping Unit.
C'est ça. C'est juste une petite référence unique. Par exemple, chem-bleu-01 pour une chemise bleue. Le vendeur ajoute ce petit code à la toute fin du titre de son annonce sur Vinted.
Ah, d'accord. Donc, quand le mail de vente arrive, YouSync lit le titre de l'annonce dans le mail, voit le code chem-bleu-01 et fait immédiatement le lien avec la bonne ligne dans l'inventaire interne.
Tout à fait. Le stock baisse de 1 et la marge nette est calculée en temps réel.
C'est vraiment astucieux. Et puisqu'on parle de marge et de professionnalisation, il y a un sujet incontournable qui terrifie beaucoup de vendeurs indépendants en ce moment, c'est la fiscalité. J'ai vu plusieurs mentions dans nos documents concernant la fameuse loi d'Axet.
Oula, oui. Le grand sujet de tension.
Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas et comment l'outil s'en mêle ?
La directive d'Axet, c'est un véritable séisme pour les vendeurs en ligne européens. Depuis peu, cette réglementation oblige les plateformes de seconde main, comme Vinted, à déclarer automatiquement aux impôts les revenus des utilisateurs qui dépassent certains seuils.
Des seuils de quel ordre ?
En général, c'est 30 transactions par an ou 2000 euros de ventes cumulées.
Ah oui, ça va très vite, 30 transactions.
Très vite. Et pour beaucoup de vendeurs qui voyaient cela comme un simple passe-temps non imposable, ben c'est devenu un casse-tête comptable majeur. Du jour au lendemain, ils doivent justifier leurs marges et parfois même payer des cotisations sociales.
C'est clair que passer du statut de simple particulier à celui d'auto-entrepreneur, surveillé par le fisc, ça change complètement la donne. Mais comment une application qui se contente de lire des mails peut aider à gérer une pression légale pareille ?
En transformant cette angoisse en données de pilotage très concrètes. L'application intègre des jauges visuelles très claires sur le tableau de bord. Ces jauges surveillent l'approche de ce fameux seuil d'Axet en temps réel.
Donc on sait toujours à quelle distance on est du radar des impôts.
Exactement. Le vendeur sait exactement où il en est. Et pour ceux qui sont déjà déclarés professionnellement, YouSync va encore plus loin. L'outil calcule automatiquement la provision pour les cotisations URSSAF sur chaque vente.
L'argent qu'il faut mettre de côté pour pas pleurer à la fin du trimestre.
Voilà, l'idée c'est de ne plus jamais avoir de mauvaises surprises. D'ailleurs, cette tranquillité fiscale, avec la possibilité d'extraire toute sa comptabilité en un seul clic, c'est accessible dès leur forfait de base.
Le forfait starter, je crois.
C'est ça. Il tourne autour de 12,90€ par mois.
Bon, c'est rassurant de savoir que la partie administrative est balisée. Avoir un rétroviseur parfait sur ses stocks, ses marges exactes et ses impôts, c'est vraiment le minimum pour bien dormir la nuit. Mais soyons tout à fait honnêtes.
Vas-y.
Un rétroviseur, ça ne fait pas avancer la voiture plus vite. Pour un vendeur qui veut passer à la vitesse supérieure, développer ses revenus de façon vraiment agressive, suivre le passé, ça ne suffit pas. Est-ce que l'outil est capable de regarder vers l'avant, d'aider à vendre plus ?
C'est là que l'analyse des sources devient vraiment la plus captivante. Parce qu'on passe effectivement d'un suivi purement passif à une vraie stratégie active. Et cette bascule, elle s'incarne dans la fonctionnalité phare de l'outil.
Le fameux copilote.
Oui, le copilote. Il est réservé au plan pro, qui est à 24,90€ mensuel. Et ici, l'objectif n'est plus seulement de faire de la belle comptabilité, mais de générer de la croissance.
C'est le moment clé. Comment ce copilote fonctionne-t-il concrètement ? Il te dit quoi faire tous les matins ?
Tout démarre par une déclaration d'intention. L'outil ne peut pas guider le vendeur s'il ne sait pas où il va. Le vendeur doit donc se fixer un objectif très précis dans le logiciel.
Genre, je veux gagner tant d'argent ?
Voilà, ça peut être un volume, disons « je veux atteindre 60 ventes ce mois-ci » ou un palier financier comme « générer 2000€ de revenus ». Cependant, il y a un garde-fou assez important.
Lequel ?
Ce copilote stratégique refuse de s'activer à l'aveugle. Il demande des garanties avant de parler.
Des garanties ?
De quel type ? De la donnée historique. Le système exige un historique minimum de 40 ventes enregistrées dans l'application avant de fournir le tout premier conseil.
Un 40 ventes.
Oui.
C'est précis. Pourquoi ce chiffre ?
Parce qu'en dessous de ce seuil, les algorithmes considèrent que les tendances ne sont que du bruit statistique. Conseiller une stratégie entière sur la base de 3 ventes aléatoires, ce serait complètement contre-productif.
La rigueur avant tout donc. Mais une fois ces 40 ventes atteintes, on imagine que l'intelligence artificielle entre en piste pour analyser tout ce volume de données et pondre un plan d'action. Parce que dans nos notes, on parle de conseils très directifs.
Ah oui, très directifs. Imposer un rythme de publication hebdomadaire ou conseiller de mettre les annonces en ligne spécifiquement le dimanche soir dans un créneau de 2 heures.
C'est fou. Mais ce qui m'a le plus frappé quand j'ai fouillé dans l'ingénierie de cette fameuse IA, c'est une règle d'or qui semble gravée dans le marbre. Une interdiction absolue imposée à la machine.
Oui, et c'est ce qui définit toute leur architecture anti-hallucination. La règle est aussi simple qu'intransigeante.
Dis-nous tout.
L'intelligence artificielle intégrée à U-Sync a l'interdiction formelle de calculer le moindre chiffre. Jamais.
Attends, on parle d'une intelligence artificielle. On a tous en tête l'image de supercalculateurs surpuissants. Et tu me dis qu'elle ne fait pas de maths ?
Même pas une petite soustraction pour calculer une marge sur un pull.
Pas la moindre addition. Et la raison est vraiment fondamentale pour comprendre les limites de la technologie qu'on utilise aujourd'hui.
Ah bon ?
Les modèles d'intelligence artificielle générative que nous connaissons, ce sont avant tout des moteurs de langage. Ils sont excellents pour comprendre le contexte, formuler de belles phrases, mais ils sont notoirement mauvais en mathématiques pures.
C'est vrai que j'ai déjà vu ChatGPT se tromper sur des calculs basiques, et non par logique stricte. Si tu demandes à une IA de calculer la rentabilité complexe de 200 articles croisés, elle risque fort d'inventer un chiffre qui paraîtrait plausible, mais qui est totalement faux.
C'est ce qu'on appelle une hallucination.
Exactement. Et dans la gestion d'une entreprise, c'est mortel. Une marge faussée de seulement 5%, ça détruit la confiance du vendeur instantanément.
Je comprends. Mais alors, si l'IA est nulle en maths, comment le système fait pour générer ses stratégies basées sur des chiffres ? Qui fait le vrai travail de calcul en arrière-plan ?
Ce travail lourd, il est confié à un code informatique extrêmement classique et rigide, qu'on appelle un code déterministe. Contrairement à l'IA, le code déterministe, il fait des mathématiques pures. 1 plus 1 fait 2 à chaque fois, sans aucune exception.
D'accord.
Ce moteur de calcul, c'est lui qui mouline toutes les données issues des emails et qui sort des résultats irréfutables. Par exemple, il va dire « la marge globale est de 1091 euros » ou « la catégorie chaussures a un taux de rentabilité de 67%. »
Ok, le socle est mathématiquement parfait, mais l'IA, elle intervient quand alors ?
Une fois que ce calcul est totalement terminé, le moteur déterministe rédige une sorte de document purement factuel, un bilan chiffré en fait, qu'il transmet ensuite à l'intelligence artificielle. Le rôle de l'IA se limite alors à lire ce document et à le traduire en langage naturel et stratégique pour le vendeur.
Je vois. L'IA, en fait, ce n'est pas du tout le scientifique en blouse blanche hein, qui remplit le tableau noir d'équations super complexes. C'est plutôt le présentateur du journal télévisé.
Ouais, c'est une super image.
Et lit le prompteur qui a été rédigé minutieusement en coulisses par des experts statisticiens. Son seul but, c'est de rendre l'information claire, digeste et surtout actionnable pour la personne qui écoute de l'autre côté de l'écran.
L'analogie est parfaite. L'IA va lire les 67% de rentabilité sur les chaussures dans le document factuel et elle va formuler une phrase engageante du genre « Tes chaussures sont de loin ta catégorie la plus rentable ce mois-ci. Je te conseille fortement d'intensifier tes recherches sur ce type d'article. »
Et si jamais il manque une info ?
C'est un corollaire très important de cette règle. Si une donnée spécifique est absente du document généré par le moteur de calcul, l'IA a l'interdiction de combler les trous.
Donc, si on lui demande une prévision sur les vestes d'hiver en plein mois de juillet et qu'elle n'a pas les chiffres sous les yeux,
elle avouera très humblement son ignorance. Elle dira tout simplement qu'elle manque de recul sur cette catégorie pour formuler une recommandation fiable. Cette humilité programmée, c'est vraiment le seul moyen de maintenir un pacte de confiance absolu.
C'est un concept fascinant de programmer volontairement les limites d'un outil comme ça. Mais ça soulève une autre question majeure.
Voyez.
Si cette IA ne devine rien, ne calcule rien et se contente de lire le passé, comment est-ce qu'elle arrive à proposer des actions inédites pour débloquer des situations ? Parce que les sources mentionnent des cas où le copilote suggère spécifiquement de baisser le prix d'un article en particulier. Si l'article n'a pas été vendu, il n'y a pas d'email de vente, sur quoi se base l'analyse pour dire « baisse le prix » ?
C'est ici qu'on aborde la partie la plus subtile de tout le système. Pour fournir ses recommandations sans rien inventer, l'outil se met à la recherche de signaux invisibles.
Des signaux invisibles ? C'est un peu mystique, ça.
Non, c'est très concret. Ce sont des micro-informations qui circulent tous les jours. Elles sont noyées dans le bruit des notifications pour un cerveau humain, mais elles sont lumineuses pour un algorithme. Et l'exemple plus puissant de ces signaux, c'est la gestion des favoris.
Ah, les fameux petits cœurs que les acheteurs mettent sur les articles pour les garder de côté.
Exactement. Quand un utilisateur navigue sur Vinted et ajoute une veste à ses favoris, ou même quand il formule une offre de prix qui est refusée, la plateforme envoie quand même un email au vendeur pour l'informer de cet intérêt.
Et comme pour les ventes, U-Sync capte ce mail de favoris.
Oui, l'application capte et analyse cet email.
D'accord, donc grâce au code SKU dans le titre, l'application relie ce petit cœur reçu par email directement à la veste dans le stock virtuel. C'est brillant d'utiliser le transfert pour capter aussi l'intention d'achat, et pas juste l'achat lui-même. Mais bon, un cœur tout seul, ça reste abstrait, ça ne dit pas au vendeur ce qu'il doit faire.
Tout à fait. Et c'est l'analyse croisée des données qui transforme un simple like en une vraie stratégie de vente. Le copilote va prendre ce compteur de favoris et le croiser avec une autre dimension super importante, le temps.
Le temps.
Oui, puisque YouSync enregistre le jour exact où l'article a été ajouté au stock virtuel, il connaît son âge de mise en ligne au jour près.
D'accord. Appliquons ça concrètement pour voir. Imaginons une belle veste d'hiver en ligne depuis 30 jours sur la boutique. Le système constate zéro vente. Mais en lisant l'historique des emails, il comptabilise 15 ajouts en favoris et peut-être deux offres de prix qui ont été refusées. Là, j'imagine que l'équation devient limpide.
Ah bah, la conclusion coule de source.
L'article suscite un grand intérêt. Les acheteurs cliquent, mais personne ne passe à la caisse. Donc c'est le prix affiché qui crée le point de blocage.
Le raisonnement est implacable. C'est vraiment l'accumulation de ces deux données. Un fort intérêt d'un côté, mais une stagnation dans le temps de l'autre, qui déclenche la recommandation. L'IA va cibler cet article spécifique et conseiller une baisse de prix tactique, avec la preuve à l'appui.
Et cette logique de détection des points de friction s'applique à tout l'inventaire ?
À l'inventaire entier, oui.
On parle ici de la gestion de ce qu'on appelle les stocks dormants, c'est ça ?
Tout à fait. Le copilote repère les catégories entières à rotation très lente. Si des dizaines de t-shirts basiques stagnent depuis des mois dans les placards, la recommandation sera de les regrouper pour créer des lots.
Pour s'en débarrasser plus vite.
L'objectif est double. Libérer de l'espace mental et dégager rapidement de la trésorerie qui dort. Et à l'inverse, l'outil utilise aussi un calendrier interne des grands événements de l'année.
Comme les fêtes ou les saisons.
Voilà, Noël, Pâques, la rentrée de septembre. Il va croiser ce calendrier avec l'historique des ventes passées du vendeur pour anticiper. Il pourrait très bien conseiller, en plein mois d'août, de commencer à mettre en ligne les vêtements d'automne.
Parce qu'il sait que c'est là que ça commence à chercher.
Parce que les données prouvent que c'est le moment précis où les favoris commencent à grimper sur ces articles-là. L'anticipation devient mathématique.
C'est un niveau de granularité assez vertigineux, honnêtement, pour un outil qui, rappelons-le, ne se nourrit à la base que d'une simple boîte mail. Et c'est justement là-dessous que je voudrais qu'on s'arrête un instant.
Oui.
Quand on observe tout ce système informatique, avec son extraction en cascade, son moteur de calcul, ses jauges fiscales et son IA par-dessus, ça a l'air d'une complexité folle. Comment est-ce que les concepteurs s'assurent qu'une structure aussi délicate, basée uniquement sur la lecture d'emails qui peuvent parfois changer de format, ne s'effondre pas comme un château de cartes au premier bug logiciel venu ?
C'est la préoccupation majeure en ingénierie de données, c'est sûr. La réponse de l'équipe de YouSync, elle réside dans leur méthodologie de développement. Ils ont opté pour une approche qu'on pourrait qualifier de construction brique par brique.
C'est-à-dire ?
Ils n'ont surtout pas tenté de coder le copilote et l'intelligence artificielle dans un seul grand élan monolithique. Ça aurait été complètement invérifiable. Et surtout, ce serait une violation flagrante de leurs propres règles du zéro risque.
Donc, on s'assure que les fondations sont hyper solides avant de monter le premier étage.
Précisément. La toute première brique, au tout début, c'était le moteur de calcul déterministe dont on parlait tout à l'heure. Ils ont passé un temps fou à s'assurer que si l'outil annonce 500 euros de chiffre d'affaires, c'est 500 euros au centime près. Validé par les emails.
D'accord, la base comptable pure.
Une fois que cette base financière a été certifiée incontestable, ils ont posé la deuxième brique.
La capture des signaux invisibles.
Voilà, les cœurs, les offres, l'historique temporel. Et c'est seulement à la toute fin, quand ces deux piliers étaient devenus totalement inébranlables sur des vraies données, qu'ils ont osé brancher la couche d'intelligence artificielle par-dessus pour interpréter l'ensemble.
Mais... si on prend un peu de hauteur sur toute cette analyse, la promesse centrale de cette plateforme est vraiment singulière. L'idée, c'est de prendre une boîte de réception email qui est par nature un espace hyper chaotique, juste un flux d'informations empilées.
Ouais, un empilement sans fin.
Et de la transformer silencieusement en un tableau de bord prédictif super puissant. On gère l'aspect comptable, la pression fiscale, on élabore une stratégie de croissance algorithmique, le tout sans jamais effleurer les lignes rouges de la modération de Vinted.
C'est exactement le tour de force. L'outil offre l'illusion et l'efficacité d'une intégration profonde, comme s'il était branché directement sur les serveurs, alors qu'il opère avec une distance de sécurité maximale. Il sanctuarise le commerce de l'utilisateur.
Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment intrigante, je trouve, qui émerge de l'étude de ces sources. Les créateurs de YouSync ont évidemment fait des choix techniques très pointus sur ce qu'ils ont intégré. Mais ce qui est peut-être encore plus révélateur, c'est ce qu'ils ont volontairement refusé d'intégrer dans cette première version.
Tu fais référence à l'analyse des tendances macroéconomiques, est-ce ?
Exactement. Avec la technologie actuelle, ils auraient très bien pu programmer leur IA pour qu'elle aspire en continu les données du web mondial. Elle aurait pu scanner les défilés de mode, les réseaux sociaux, analyser les millions de requêtes globales sur Google.
Pour dire aux vendeurs quoi acheter.
Voilà, pour dire « Attention, le marché s'emballe pour les vestes en cuir rouge ce mois-ci, achète ça en priorité ». Mais ils ont pris la décision consciente de ne pas le faire.
C'est vrai.
Ils ont refusé d'intégrer des recommandations basées sur des sources externes, en arguant que ces données sont par nature incertaines, volatiles et invérifiables à l'échelle d'un vendeur individuel.
Et c'est un parti pris technologique d'une rare radicalité aujourd'hui, à une époque où l'obsession de toute l'industrie, c'est d'avaler la quantité maximale de données tous azimuts, choisir de se limiter volontairement aux seules données internes du compte du vendeur, c'est vraiment nager à contre-courant.
Et ça pose une question fondamentale, en fait. Pas seulement pour la vente en ligne, mais pour n'importe quel domaine technologique ou entrepreneurial aujourd'hui. On vit tous avec le dogme que plus de données, c'est toujours mieux. Toutes les grandes plateformes participent à une course frénétique pour scraper le moindre recoin d'Internet. Mais face aux hallucinations des IA et à l'overdose d'informations non vérifiées...
Tu penses que la retenue est la solution ?
Est-ce que l'avantage compétitif ultime de demain ne serait pas, paradoxalement, cette retenue extrême ? Le choix assumé de l'auto-limitation technologique. Finalement, face au vertige d'une automatisation sauvage et de l'aspiration des données à tout prix, la stratégie la plus pérenne n'est-elle pas de confier le développement de son entreprise à ce seul comptable discret, celui qui refuse de s'abreuver des rumeurs de la rue pour se concentrer uniquement sur les reçus vérifiables qu'on lui glisse sous la porte ? C'est une piste de réflexion puissante sur notre rapport aux outils numériques. Notre analyse des rouages de YouSync s'arrête ici. Gardez l'esprit critique face aux algorithmes et à très bientôt pour un nouveau décryptage.